Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Soyez les bienvenus sur le plateau des experts. Au sommaire ce matin, la dégradation de la productivité au niveau mondial. Le FMI estime que c'est le principal moteur de notre ralentissement économique. Il réclame des mesures ambitieuses pour inverser la tendance et évoque le risque d'une décennie perdue. On verra quelles sont les pistes pour améliorer justement la productivité. On parlera du dérapage des finances publiques. C'est le psychodrame de la semaine. Le déficit public, 5,5% pour 2023. Il devrait rester supérieur à 5% pour cette année. On verra justement quelles sont les pistes du gouvernement. Concours l'épine des mesures d'économie, disait il y a quelques jours Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports. On parlera du logement social. Le gouvernement veut mettre un terme au logement social à vie. Il estime que 8% des personnes qui résident actuellement dans les HLM ne seraient pas éligibles à un logement social s'ils en faisaient la demande aujourd'hui. Il souhaite que les bailleurs sociaux contrôlent davantage les revenus et la situation personnelle. Est-ce du pragmatisme ou de la démagogie? On en discutera tous ensemble. Et puis la carte blanche de nos invités. On parlera du CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Et puis on parlera du retour des multiplicateurs budgétaires dans le débat. On en parlait déjà hier matin, vous allez le voir. Pourquoi justement c'est de nouveau important, notamment dans un contexte de dégradation des finances publiques. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nos débatteurs aujourd'hui dans les experts, Philippe Manière, bonjour, président et cofondateur de Vaesolis Communication. Bonjour également Mathieu Blan, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Jean-Marc Daniel, éditorialiste, économiste, professeur émérite à l'ESCP, qui, on va vous le dire, vient jouer les remplaçants parce qu'on a eu un petit problème. Merci Jean-Marc de nous rejoindre.
Mais il n'y a pas de problème. Il y a eu un problème, il n'y a plus de problème.
Avec Jean-Marc Daniel, il n'y a plus de problème. On va commencer par cette déclaration du FMI qui s'inquiète de la dégradation de la productivité au niveau mondial. Selon le FMI, c'est le principal moteur du ralentissement économique. Et en l'absence de mesures ambitieuses pour inverser la tendance, le Fonds monétaire estime que la croissance mondiale va tomber en dessous de sa moyenne historique. 2,8% par an en moyenne d'ici 2030, c'est-à-dire un point en dessous de sa moyenne historique. On va commencer justement avec Jean-Marc. Pourquoi est-ce que la productivité est en baisse?
Alors c'est... Je reviens assez souvent sur cette formule qui avait été mise en avant par un groupe de travail présidé par Philippe Martin qui nous a quittés, hélas. Et dans ce groupe de travail, la formule de conclusion, c'était l'évolution de la productivité était un mystère. D'ailleurs, la conséquence, c'est comme toujours en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un conseil. Conseil national de la productivité.
Depuis 2018,
qui maintenant étudie la productivité.
Ça va tout de suite aller mieux.
Il y a des gens qui se réunissent, qui font des rapports très brillants.
Est-ce que ce conseil est productif? Ça, c'est la question.
Mais je ne sais pas s'il est très productif. Il produit. Alors, est-ce qu'il produit à hauteur de ce qu'il devrait produire? Il produit, il donne des conseils. Alors, je crois que dans l'analyse, il y a une analyse de moyen terme, enfin de long moyen terme, et puis une analyse de court terme. C'est-à-dire, à long moyen terme, on s'aperçoit quand même que la productivité, et historiquement, et pas uniquement en France, mais dans tous les pays qui sont à ce qu'on appelle la frontière technologique, c'est-à-dire les pays qui sont les porteurs des innovations et de l'avenir, et cette productivité est en train de baisser. Au moment des Trente Glorieuses, c'était 4% par an, l'augmentation. De 1974 à 2003, c'était 2%. De 2003 à la crise Covid, on était redescendu à 1%. Et là, il y a des évaluations où ce serait pratiquement plus de productivité. Alors, donc si on regarde maintenant à court terme, bon, il y a des éléments conjoncturels, on met souvent en avant maintenant les apprentis, c'est-à-dire parmi les salariés, maintenant, il y a de plus en plus d'apprentis, et par définition, les apprentis, il y a une phase où ils apprennent quelque chose, donc ils sont moins efficaces.
Ouais, et ils seraient responsables d'un tiers de la baisse de productivité en France.
Oui, absolument. Mais il y a ce mécanisme, il existe aussi en Espagne, ce mécanisme de baisse de productivité, je pense, existe aussi aux États-Unis malgré ce qu'on nous raconte, donc je pense que c'est pas uniquement ces éléments. Je crois que des enjeux dans tout ça, vous savez, c'est la différence qu'on fait entre l'innovation et l'invention. L'innovation, c'est quelque chose qui améliore vraiment et le processus productif et le bien-être de la population, qui correspond à une attente de la population. L'invention, c'est quelque chose qui fascine les ingénieurs, qui nourrit des articles dans les presses scientifiques, mais qui ne correspond pas aux besoins immédiats de la société. Et donc, c'est Larry Summers qui donne cette interprétation. Il dit, on est dans une société d'invention et qui a perdu le sens de l'innovation. Et donc là, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, on est fasciné par l'intelligence artificielle, mais les TIC
c'est,
des années
c'est
2000...
C'est peut-être une partie de la solution, l'intelligence artificielle.
Alors, c'est
pour
pas
améliorer,
c'est la solution, c'est une illusion. C'est-à-dire, les TIC des années 2000, vous vous souvenez, il y a 20 ans, on nous annonçait que ça allait être un chamboulement, et puis tout ça, bon, après, on nous a dit, oui, il y a le paradoxe de Solow, c'est Solow, cet économiste qui nous a quittés là aussi l'année dernière. Qui disait que les ordinateurs, on les voit dans les bureaux, on les voit pas dans les statistiques. Alors l'IA, est-ce qu'on la voit dans les premières pages des journaux, est-ce qu'on va la voir dans les statistiques? C'est ça, je crois, l'enjeu.
Mathieu Plane, certains économistes font remarquer que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle en matière d'emploi. Ce sont des chiffres de l'OFCE. Entre 2019 et 2023, on a créé 1,2 million d'emplois en France. Et à productivité constante, on aurait dû en détruire pratiquement 200 000. Tiens, de vos collègues, Eric Ayer.
Je connais bien l'étude. Alors, c'est une bonne nouvelle à court terme pour le marché du travail. Effectivement, c'est d'ailleurs...
Et pour les intéressés, surtout.
Pour les intéressés. On mettait en avant ce paradoxe-là. C'est-à-dire que jamais, finalement, on a créé autant d'emplois avec si peu de croissance. Ce qui est exactement l'inverse des gains de productivité. Ce que disait Jean-Marc, c'est que là, historiquement, on a un ralentissement des gains de productivité. Mais on continue à augmenter quand même la productivité chaque année. Là, le choc est très spécifique, c'est qu'on a eu une baisse du niveau de productivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 4 ans après le début de la crise, il faut plus de gens pour générer la même valeur ajoutée. Ce qui est quand même assez incroyable.
Selon les chiffres Eurostat, en France, la productivité, elle a baissé de 3,75% entre 2019 et 2023.
Et nous, si vous regardez la tendance historique, parce qu'on avait des gains de productivité autour de 0,9, c'est comme ça qu'on calcule la croissance potentielle. En réalité, on a une tendance un peu inférieure à 1%. Le décrochage par rapport à la tendance, il est de entre 8 et 9 points. Ça veut dire que c'est énorme, en fait. Et c'est vraiment une question fondamentale, c'est-à-dire pour les années à venir, c'est est-ce qu'on va rattraper ces pertes ou est-ce qu'elles sont complètement structurelles? Et c'est là où on a fait justement ce travail-là. Parce qu'en gros, il y a 1,4 million d'emplois de plus que ce qu'on aurait dû avoir d'habitude. C'est-à-dire que par rapport à une tendance de productivité historique pré-Covid, aujourd'hui, l'économie française, en 4 ans, a créé plus de 1,4 million d'emplois en plus que ce qu'on aurait pu attendre dans un modèle macroéconomique traditionnel. Et dedans, on en explique à peu près 2/3, dont l'apprentissage. Mais l'apprentissage, ça fait 300 à 400 000. Il y a un autre effet qui est assez fort, en réalité, qu'on doit retrouver dans pas mal de pays. Il y a eu énormément d'aides pendant la crise, des aides exceptionnelles. Et vous regardez, les statistiques de faillite sont tombées au plus bas. Oui. Ce qui est le grand paradoxe.
C'est-à-dire que ces entreprises zombies, elles ont dégradé leur productivité.
Exactement. Oui, c'est-à-dire que vous avez... Alors, c'est bien pour les gens qui sont dans ce type d'emploi, parce qu'ils ont été préservés, alors qu'en temps normal, ils auraient été détruites. Donc, on voit bien que le calibrage de la réponse de politique publique très forte avec les taux d'intérêt très bas a permis de mettre le niveau de faillite très bas et donc d'avoir des emplois qui ont été préservés alors qu'ils n'auraient pas été.
Mais ça va s'équilibrer, ça.
Alors voilà,
on voit bien que les défaillances d'entreprises ont augmenté fortement.
Alors, voilà, donc du coup, nous, notre prévision, c'est pour ça que d'ailleurs on attend des destructions d'emplois cette année, c'est-à-dire qu'on a une forme de rattrapage partiel des gains de productivité. On rattrape à peu près un sixième, c'est-à-dire que la montée en charge de l'apprentissage est terminée, on est sur un plateau. Et puis, on revoit le retour des défaillances, c'est-à-dire que la hausse des taux, les PGE, la demande qui atone, etc., fait que, assez logiquement, on retrouve des défaillances, une forme de rattrapage. Donc ça, c'est un rattrapage de la productivité par le bas, quelque part. Mais si on va sur le plus long terme, c'est essentiel, parce que regardez sur les scénarios du Conseil d'orientation des retraites. C'est quoi la variable déterminante? C'est la productivité, c'est les gains de productivité, parce que, typiquement... Les retraites ne sont pas indexées sur les salaires et sont sur les prix. En fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce scénario-là, il est extrêmement important. Or, aujourd'hui, on a très peu de débats sur la productivité à venir. Quand vous prenez un choc de moins 8, comme ça, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va les rattraper? Est-ce que, justement, ça joue sur notre croissance potentielle? Et quand on parle de ces gains de productivité, il faut savoir qu'on est aujourd'hui dans une phase où on a un ralentissement très fort des gains de productivité, voire de baisse, et deuxièmement, de vieillissement des populations. C'est-à-dire que si vous faites la croissance potentielle pour les années à venir, plus les défis écologiques, la croissance peut être assez proche de zéro. On parlait de la stagnation séculaire. La grande question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, c'est le nouvel Eldorado de la productivité? Pour le moment, on n'a pas vu ces gains de productivité liés au numérique, la digitalisation, etc. Est-ce que c'est lié au temps de diffusion? Pour le moment, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Et il y en a qui vous disent que, effectivement, les grands gains de productivité sont devant nous. Et d'autres disent, non, c'est terminé, en fait.
Philippe Manière.
Non, mais j'ai pas grand chose à ajouter. Tout a été dit sur effectivement les mystères de la productivité, ce ralentissement mondial, les raisons, explicables localement et pas toutes déprimantes, en particulier le retour dans l'emploi de gens peu qualifiés, que ce soit effectivement des apprentis ou des gens qui avaient été
évincés
de l'emploi, qui étaient non qualifiés, parce qu'on parle des apprentis, mais il n'y a pas que ça. Il y a un retour dans l'emploi, beaucoup de gens qui sont très peu qualifiés. Bon, tout ça, ça fait les déterminants de ce qu'on constate. Moi, je crois que, ça, c'est une donnée. Effectivement, les gens se rendent pas suffisamment compte à quel point ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça innovation ou invention, mais une grande rupture du type, je ne sais pas quoi, électricité, machine à vapeur, chemin de fer, etc. Ça, c'était quelque chose qui faisait, si vous voulez, basculer très profondément l'humanité, en tout cas tous ceux qui avaient accès à ces nouveautés, dans un mode de production qui était incroyablement plus productif. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des choses comme ça. On a eu des choses dont on avait l'illusion qu'elles ressemblaient, puis on constate que non, pas tant que ça. Bon, voilà, donc il y a cette explication générale. Moi, je crois que dans ce cadre-là, la seule chose qu'on puisse faire ou dire, c'est essayer d'obtenir que, sous cette contrainte, la France essaye d'être aussi productive qu'elle peut l'être. Et de ce point de vue-là, je crois que le fait qu'on continue à créer des emplois publics n'est pas une bonne nouvelle. Parce que, oui, bien sûr, il faut un État qui donne les cadres, qui assume les missions régaliennes, éventuellement qui contribue à un certain nombre de choses dont on considère maintenant, c'est discutable, mais c'est quand même... pas complètement idiot de se dire que l'État a un rôle à jouer dans l'éducation, parce que c'est aussi du capital humain, la santé pour les mêmes raisons et puis pour des raisons évidemment extra-économiques évidentes. Après, on voit bien que dans la situation de finances publiques et de productivité où on est, l'idée que l'an dernier on a créé, je crois, 58 000 emplois publics et que cette année on va encore en créer 50 000, ça me paraît pas de nature à accroître la productivité moyenne en France. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis alors on a évoqué, moi je suis pas chorologue, parce qu'il s'est passé tellement de choses au sein du corps en particulier, dans la manière dont ces gens-là interagissaient. Moi, je suis pas un spécialiste, mais ce que je comprends, c'est que Gilles Berset a enfin imposé qu'on arrête de se raconter des histoires sur le sujet. Enfin, j'y vais à la serpe. Mais non, mais parce que depuis très longtemps, on disait, mais non, il n'y a pas de problème sur les retraites. Regardez, si on postule qu'il y a des gains de productivité de X, alors tout ira bien. Sauf qu'on les constate pas ex post. Et puis, on sait bien maintenant, on vient d'en parler pendant 10 minutes, donc ça a l'air d'être de l'eau. Il est assez probable qu'il n'y ait pas de gains élevés et que de toute façon, on n'en sait rien. Donc, ça me paraît raisonnable d'avoir plusieurs scénarios, dont aucun exagérément optimiste. Parce que depuis longtemps, on vit sur des scénarios exagérément optimistes. Donc, sous la contrainte d'une productivité mystérieuse et faible, nous avons, nous, Français, des responsabilités. C'est ne pas trop se raconter l'histoire et puis ne pas tout faire pour se tirer une balle dans le pied en prime de la baisse de la productivité mondiale.
Juste apporter une chose complémentaire pour avoir de la production, c'est de la productivité multipliée par la quantité de travail.
Alors, il y a ça aussi.
La qualité multipliée par la quantité. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans un certain nombre de pays, on réagit en disant, bon, il va falloir mobiliser le travail. En France, on a quand même un discours, c'est on va passer à la semaine de 4 jours, ouais. Au moment du débat sur les retraites, rappelons qu'il y a quand même un droit à la paresse. et sur un sujet qui nous est cher tous les deux, quand il s'agit de savoir si on doit faire grève et tout ça, il ne faut surtout pas que les grèves aient des conséquences sur les vacances. C'est-à-dire que quand le Sénat se mobilise sur le sujet des grèves dans les services publics, ils disent, l'enjeu c'est de ne pas sacrifier les vacances de février. Donc je crois qu'il y a quand même aussi un état d'esprit qui est... Alors on parle de réhabiliter le travail, il va falloir se mettre dans l'idée qu'il va falloir augmenter la quantité de travail. Le passage de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite était dans cette logique. Je pense que maintenant, il va falloir mettre sur la table la suppression d'un certain nombre de jours fériés, la suppression et la réexamen, effectivement, des 35 heures.
Vous voulez mettre tout le monde dans la rue. Hein. Ouais. Mais quand on parle des 35 heures, certains avancent les 35 heures comme étant en partie responsables de la dégradation de notre productivité depuis pas mal d'années, hein, puisque c'est pas récent cette dégradation. Est-ce que c'est un argument politique ou est-ce que économiquement, c'est un argument recevable?
Non, je vais laisser la parole après Mathieu, mais normalement, la durée du temps de travail... C'est pas la productivité, c'est la quantité. Donc
Parce que la productivité, elle est mesurée
à l'heure, donc c'est la qualité.
On peut travailler moins et être très productif.
Exactement. Et normalement, c'est la logique de la réduction du temps de travail.
C'est l'histoire.
C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un calcul de Gilles Berset dont on a parlé pour le corps. Il a rétabli l'évolution de la productivité depuis 1890 en moyenne en France. Elle est de 2,5%, alors que le revenu moyen a augmenté de 1,8%. La différence entre les deux, c'est la réduction du temps de travail, c'est-à-dire qu'on a converti l'efficacité que se mesure la productivité, d'une part en revenus, d'autre part en loisirs, en aménagement du temps de travail. On est dans une phase où il n'y a plus de productivité, donc il faut revenir sur le temps de travail. Et je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est d'augmenter la quantité de travail dont dispose le pays.
Mathieu ?
Oui, non, alors là-dessus, je trouve quand même qu'il y a eu un effet quand même plutôt positif ces dernières années, c'est qu'on voit quand même le taux d'emploi en France qui a quand même augmenté significativement. Si on prend les 20 dernières années, il y a une évolution du taux d'emploi qui est fort, et notamment chez les seniors. Alors, il y a eu les réformes des retraites, notamment, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de politiques de l'emploi, alors qui coûtent cher, hein, d'ailleurs, avec les exonérations de cotisations, qui font que, notamment, on a un taux d'emploi qui a augmenté. Alors, peut-être ça s'est fait, d'ailleurs, il y a une étude de la Banque de France qu'on pourrait discuter, je ne suis pas sûr que les résultats ne soient pas discutables là-dessus, mais qui dit qu'en fait, quand le taux d'emploi augmente, les gains de productivité diminuent.
Oui.
parce que vous récupérez des gens qui sont à la frontière du marché du travail, qui seraient les moins productifs.
C'est ce qu'on évoquait, c'est ce que dit.
Donc il y a toujours cet arbitrage-là qui existe. Est-ce que le chiffre est juste ou pas? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur la France, fait partie des pays où le taux... Il y a encore des marges de manœuvre, bien sûr, hein, mais le taux d'emploi a quand même beaucoup augmenté. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais créé autant d'emplois, en réalité, en si peu de temps. Après, ça pose la question de la qualité des emplois aussi, et de la productivité de ces emplois. Ça pose la question de la diffusion du progrès technique, ça pose la question de la recherche, pose plein de questions. Mais c'est vrai que là, le décrochage français est quand même... On voit, hein, ce que dit le FMI, c'est que la productivité ralentit partout. Mais la France a un choc qui est particulièrement fort. Et jusqu'à présent, un des atouts de la France, c'était qu'on avait un niveau de productivité qui était élevé. Si vous le preniez en niveau de productivité horaire, il y avait la question du temps de travail, mais le productivité horaire faisait partie quand même des pays où on était le plus efficace, le plus
productif. C'était d'ailleurs la réponse qu'on adressait à nos partenaires européens. Ils critiquaient les 35 heures, on les disait, certes, on travaille moins, mais on est extrêmement productif.
Voilà. Il y avait une forme d'arrogance française traditionnelle sur le thème, nous, les gars, on n'a pas besoin de bosser autant que vous, puisqu'on est meilleur à l'heure ouvrée. Bon, ça devient un tout petit peu moins.
Ça devient un petit peu moins.
Là, c'est plus défendable. Je le disais, 3,75% de baisse, je le disais, de productivité en France entre 2019 et 2023. Au Danemark, la baisse est de 0,6%. Aux Pays-Bas, elle a augmenté de pratiquement 2,5% sur la même période. Et en Italie, elle a augmenté de 1%.
Il y a un problème de productivité mondiale qu'on a évoqué et il y a un problème spécifique français. Donc là, il y a aussi des choses qui ont été décrites assez bien par un certain nombre de chercheurs. Il y a aussi ce qu'on appelle le désengagement au travail. Hein. C'est-à-dire que vous avez quand même quelque chose qu'on constate. Moi, je crois que c'est lié tout de même...
C'est quoi? C'est le droit à la paresse dont parlait Jean-Marc?
Il ne faut pas généraliser parce qu'il y a évidemment, heureusement, énormément de Français qui sont très engagés dans leur job. Je ne veux pas donner le sentiment que je pense le contraire. Mais probablement, il y a quelque chose. Vous voyez, c'est un peu comme les gens qui ne vont pas chez le médecin quand ils ont rendez-vous avec la fameuse polémique sur la taxe lapin. Je pense qu'il y a un certain nombre de comportements qui n'étaient pas en usage et qui deviennent aujourd'hui suffisamment prévalents pour que ça pèse sur l'engagement au travail, que ce soit en présence ou que ce soit en engagement pendant les heures ouvrées. Je prends juste un exemple. Vous voyez, il se trouve que il y a les vacances, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, de printemps, parce qu'on a plus le droit de dire Pâques dans la zone C. Bon, regardez le nombre de places de parking qu'il y a à Paris. Je ne veux pas être désobligeant, mais au parking de BFM Business, il y a plus de places que d'habitude. Non, mais je voyais, est-ce qu'il y a 15 ans seulement, on aurait eu autant de gens qui ne... Regardez le nombre de remplaçants, le nombre de gens qui ne sont pas là quand vous appelez, etc. C'est les vacances de Pâques. Avant, les gens ne partaient pas en vacances, ou très peu, marginalement, dans ce qu'on appelait les vacances de Pâques avant. Il y a quand même eu un changement, si vous voulez. Donc, il y a moins de gens.
Et le télétravail aussi un peu.
Ouais, le télétravail, je veux bien, mais le télétravail pendant les congés sur les places de parking scolaires, parce que le télétravail, il expliquerait la.
Ah non, mais ça veut pas dire qu'on perd en
la semaine dernière, quand c'était pas les vacances scolaires, c'était blindé. Donc c'est non, il y a un truc, si vous voulez, qui est pas très descriptif. Moi, je suis pas un spécialiste de l'analyse statistique de tout ça, mais il me semble qu'il y a quand même une espèce de de désengagement d'atmosphère, et ça se mesure forcément dans la productivité. Alors je crois que ça, c'est lié aussi à l'idée que les gens se font du pays. Si vous êtes optimiste, si vous pensez que le pays va s'en sortir, si vous pensez que vous avez votre place dans la société, vous êtes plus motivé pour bosser, être présent, interagir avec votre employeur, vos collègues, etc. Si vous pensez que tout est foutu, ce qui est malheureusement l'opinion d'une... j'y vais à la serpe là encore, d'une part croissante de nos concitoyens, il y a moins de raisons de s'engager. Donc moi je crois que notre cas particulier de la productivité, de la productivité en France, on voit bien qu'il est plus grave qu'ailleurs pour des raisons qui sont spécifiquement françaises par définition, et je pense qu'elles sont à rechercher dans ce domaine-là que je viens de décrire encore une fois de manière un peu impressionniste et pardonnez-moi, je crois que ça existe malgré tout.
Petite parenthèse sur les États-Unis, on nous dit la productivité augmente aux États-Unis. Regardez, c'est spectaculaire. Jean-Marc, je crois que vous êtes un petit peu dubitatif sur les chiffres américains.
Oui, je suis un peu dubitatif parce que quand on regarde l'évolution des chiffres sur les États-Unis, on s'aperçoit que... on a des données statistiques très très vite. On a l'indice des prix du mois, le jour même, où le mois s'achève, etc. Bon. Et puis alors, on se précipite là-dessus, on commente, et puis après, c'est révisé abondamment. Et quand on regarde les révisions, on s'aperçoit que l'évolution de la productivité aux États-Unis est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on pourrait penser. Et surtout, ce que disent bien les statisticiens, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, on fait toujours un petit mot de fin d'émission.
Oui.
Oui, oui. Donc ce sera statistique, mon petit mot. Donc j'aurai l'occasion d'en revenir là-dessus. Et pourquoi? Parce que les statisticiens américains explique bien qu'ils ont de plus en plus de mal à faire le partage entre les prix et les volumes, que l'évolution de l'économie américaine est telle que désormais ils ont beaucoup de mal à faire ça, ce qui fait que aussi bien leurs indicateurs d'inflation que les indicateurs de productivité sont extrêmement fragiles, avec comme conséquence d'ailleurs, c'est que alors ça peut être une transition, la politique monétaire qui est censée être liée à des données, oui, s'appuie sur des données dont les statisticiens américains disent en particulier qu'elles sont extrêmement fragiles. Donc on peut se poser quand même la question de à la fois de la productivité et de la politique monétaire qui est assise sur ces données.
On va marquer
Mathieu, c'est un point important parce que de plus en plus ce partage volume-prix dont on parle peu parce que c'est un débat de statisticiens, il est devenu complexe à la fois pour la localisation de la valeur ajoutée avec les problèmes de numérisation, etc. Et dans le partage prix-volume, il y a la question de la mesure de l'inflation et ce qu'on appelle les indices de prix hédoniques. C'est comment vous intégrez bien le progrès technique dans les indices de prix. Et c'est important parce que ça paraît un débat technique, mais ça change tout sur la mesure de la productivité et de la croissance. Dans un cas, vous considérez que c'est de l'inflation, dans l'autre cas, vous considérez que vous créez de la valeur ajoutée en volume, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais c'est vrai qu'on, je pense que possiblement, ça devient de plus en plus délicat de le mesurer correctement. L'INSEE fait très bien son travail.
Si on résume ce qu'on vient de dire, il est possible que tous les chiffres qu'on a soient parfaitement
faux. Non, mais on a le problème avec l'Irlande, par exemple.
Pas faux, mais approximatif. Mais voilà. Faux, c'est radical, comme expression. Voilà,
et c'est l'ancien économiste de l'INSEE qui le dit.
Oui.
Non, l'INSEE fait un très bon travail.
Mais absolument.
Mais c'est devient de plus en plus difficile de mesurer correctement les choses.
Allez, on marque une pause juste après. On parlera du déficit, le dérapage des finances publiques, concours l'épine des mesures d'économie. On parlera aussi du logement social. Peut-être un mot rapide, mais est-ce que une forme de pragmatisme ou de la démagogie de vouloir mettre un terme au logement social à vie. Et puis la carte blanche de chacun d'entre vous. Je le rappelle, on parlera du CETA, on parlera des multiplicateurs et on parlera des statistiques, de la définition du mot statistique. Je vous donne un indice. Ça n'est pas un mot d'origine anglaise. C'est Jean-Marc qui nous l'expliquera. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Nos trois experts, toujours en plateau, Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, Philippe Manière, président et cofondateur de Vaille Solis Communication, et Jean-Marc Daniel, économiste, éditorialiste, professeur émérite à l'ESCP, auteur. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va parler du dérapage des finances publiques. Là, c'est vraiment le psychodrame du moment. 5,5% de déficit l'an dernier. On devrait rester au-dessus de 5% cette année. Le gouvernement cherche de nouvelles mesures d'économie. Et ce matin, David Tesmar, professeur au MIT, co-signe une tribune dans les colonnes des Échos. Il dit que c'est un débat bien naïf, cette histoire de dette. Pour quelle raison, Mathieu Plane ?
Alors, naïf, je ne sais pas. Parce que s'il était si simple, on n'aurait pas de débat.
Ouais. D'abord. Et on n'aurait peut-être pas de dette non plus.
Et puis, de toute façon, la dette, on ne peut pas vivre, j'allais vous dire, les marchés seraient bien embêtés de ne pas avoir de dette. Notamment, l'épargne va bien quelque part. Bon, ça, c'est un autre point. C'est qu'il ne faut pas avoir trop de dette. Il faut que ça reste soutenable. C'est ça le réel débat. Ce qui me semble dans la tribune, c'est qu'ils disent qu'il y a un problème de contracyclicité. C'est-à-dire que il faut être capable de... Les déficits sont là pour éponger les crises, mais en période de, on va dire, d'amélioration de la situation économique, il faut être capable de réduire les déficits. Et le problème, c'est toute la contracyclicité des déficits publics, c'est-à-dire faire de la consolidation quand ça va mieux. Et c'est vrai qu'on a cette difficulté-là, notamment avec les crises à répétition, c'est qu'on a eu des déficits permanents et avec des difficultés à redresser les finances publiques. Et vous voyez, depuis maintenant 2008... On a quasiment doublé le niveau de dette publique en point de PIB. J'exagère un peu, on est passé de 60 à 110% du PIB, mais avec des marges d'escalier, à chaque fois, à chaque nouveau choc. Donc la question, c'est la capacité aussi, à un moment donné, à réduire les déficits. C'est vrai, et le timing dans lequel on peut le faire. Le timing est souvent assez mauvais, en réalité, parce que quand ça va bien, on a des recettes fiscales qui rentrent toutes seules, et donc on dit que voilà, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Et à l'inverse, par contre, quand on a le couteau sous la gorge, on va réduire les déficits à marche forcée, ce qui pose un certain nombre de problèmes.
Et vous l'avez calculé d'ailleurs récemment à l'OFCE, oui. Vous dites, sur les 10 milliards, on y reviendra tout à l'heure, oui. Mais sur les 10 milliards d'économies qui ont été annoncées, là on parle des premières économies, oui, il y a peut-être un autre plan qui se prépare, il y en a un peu plus de 7 qui auront un impact sur le PIB, oui. Et donc ça va aggraver le déficit.
Ah non, pas aggraver le déficit, ça va réduire la croissance.
Ça va réduire la croissance.
Alors, effectivement,
donc moins de recettes fiscales, voilà, etc.
Mais ça réduit quand même le déficit public. C'est
quand même.
J'allais
quand
un peu vite en besoin.
Mais la question du multiplicateur important. D'ailleurs, s'il y avait des économies magiques, il faudrait les faire tout de suite. Enfin, ça serait bête de s'en passer, quoi. Je veux dire, si ça n'avait pas d'effet sur la croissance ou le bien-être ou quoi que ce soit, ça serait un peu dommage. Il y a certainement de l'efficacité à gagner. Non, mais cette question-là, elle est assez importante. Et ce qu'on voit, c'est que depuis maintenant, allez, 15 ans, notre dette publique a augmenté, mais sans contrepartie d'investissement supérieur. C'est bien là le problème, en réalité. C'est ce qu'on appelle une forme de dette blanche, une dette de crise. Et donc, en fait, si vous faites de la dette, mais que vous investissez en face, vous équilibrez les choses, quelque part. Ou même quand vous avez des taux zéro, l'investissement peut permettre de construire un certain nombre de choses. On parlait de la productivité, de l'innovation, l'infrastructure publique, enfin bon, de la R&D. Bon, il y a plein de questions là-dessus. Donc, cette gestion-là, elle est importante. Et j'ai l'impression qu'effectivement, le timing est souvent assez mal choisi des périodes dans lesquelles on va faire de la consolidation parce que, au fond, on réfléchit pas, quand ça va bien, à faire plus d'efforts.
Justement, Philippe Manière, on sent qu'il y a un coup de stress au gouvernement, oui, avec la décision des agences de notation dans quelques jours pour les premières et à la fin du mois de mai pour S&P. Est-ce que la situation est aussi catastrophique que certains veulent bien le dire ?
Oui, absolument qu'elle est catastrophique, mais elle n'est pas tellement plus catastrophique qu'il y a 3 semaines, ou il y a 3 mois, ou il y a 3 ans. Ça fait 25 ans que la gestion des finances publiques est catastrophique. Parce que ce que disait Mathieu sur le fait qu'il y a des crises, que c'est difficile, parce qu'on dépense pendant les crises, c'est parfaitement vrai. Enfin, comme vous savez, toutes les crises dont on parle, toutes, crise financière, crise Covid, crise de l'énergie, elles sont international.
Oui, bien sûr.
Donc, seule la France est dans cette situation épouvantable. Mais non, tous les autres redressent leurs finances.
Non, pas tout à fait.
Je vais me faire bien entendre. Tout le monde a vu ses finances publiques dégradées à l'occasion des mesures qui ont été prises pour lutter contre les crises. Mais seuls nous étions dans cette situation catastrophique avant la crise, ou presque. Il y a 2 ou 3 mauvais élèves à part nous, mais on était parmi les mauvais élèves avant. Donc devinez quoi, on n'est pas dans les bons élèves ensuite. Et puis surtout, à la fin des crises, les autres ont redressé, ont fermé plus vite le robinet. Nous avons fait avec cette folie intellectuelle et politique, qui est le concept même de quoi qu'il en coûte, puisque la politique c'est quoi ? Gouverner, c'est choisir. Quand vous dites quoi qu'il en coûte, vous renoncez à votre job de politique. Vous dites je vais tout. Parce que quand on parle maintenant de concours Lépine des économies, mais n'oubliez pas qu'on sort de 15 ans de concours Lépine de dépenses. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas quoi inventer pour guérir les écrouelles. La pathologie française, c'est ça. C'est qu'on pense que le roi guérit les écrouelles. Mathieu lui-même vient d'en faire la confession quand il dit n'oublions pas qu'il y a des tas de choses qui sont très bien dans la dépense publique. Mais avec des raisonnements comme ça, on peut aussi faire plus de dépenses publiques car les besoins
on
sont
peut
infinis.
Tout couper aussi, hein.
Donc le boulot du politique, c'est d'arrêter de dépenser quand on pense que le rendement marginal d'un euro de dépenses publiques supplémentaires n'est pas satisfaisant. Mon sentiment, mais je suis pas économiste comme vous, cher Mathieu, donc je peux pas le démontrer là maintenant tout de suite, c'est que ça fait assez longtemps qu'on a passé le moment où le rendement marginal d'un euro supplémentaire de dépenses publiques pouvait être honnêtement défendu. On voit bien qu'on est en France dans un enfermement. Vous le disiez très justement, il n'y a pas d'investissement, ni d'ailleurs public ni privé, suffisant par rapport à nos besoins, et en particulier par rapport à notre retard de productivité, alors même qu'il y a une dépense publique de folie. C'est donc la preuve qu'il n'y a pas de I égal S. On est dans une espèce de truc où on jette l'argent. C'est les gens qui jettent l'argent pour calmer la foule, pour se donner bonne conscience. Regardez les débats au Parlement. Toutes les semaines, on nous trouve... Alors, pardon, je ne vais pas confondre le débat inflation normative et le débat inflation de la dépense, mais c'est un peu la même problématique. C'est-à-dire que, sans arrêt, et ça, David Tesmar et Augustin Landier le disent assez justement, c'est très difficile de demander à des hommes politiques en général, mais en France en particulier, de faire autre chose que le fameux « je dépense, donc je suis ». Alors cela dit, ce n'est pas une fatalité, c'est un trait culturel français. Et c'est un trait culturel qu'on retrouve dans d'autres pays, mais pas dans beaucoup. Moi, il y a un sujet qui m'avait beaucoup intéressé. Il y avait un travail qui avait été fait en Suisse. Vous savez, il y a à peu près, je crois, enfin, il y avait une grosse vingtaine de cantons en Suisse. Et on avait regardé ceux qui étaient le plus rigoureux sur le plan budgétaire. Ce n'est pas ceux qui ont inscrit l'équilibre des comptes dans la constitution du canton ou dans les textes fondateurs du canton. C'est ceux qui ont des mentalités de gens raisonnables. Il suffit pas d'écrire quelque part qu'il faut pas faire de bêtises. Il faut que la collectivité ait le sentiment sincère qu'il faut pas faire de bêtises. Et il y a des tas de cantons suisses qui sont à l'équilibre bien gérés, prospères, alors que rien n'exige d'eux dans leur texte fondateur qu'ils soient à l'équilibre budgétaire. Puis on a des tas, typiquement les cantons, enfin, connus comme étant parasocialistes, type Genève, etc., où vous avez des trucs admirables, mais qui sont violés sans arrêt, le Jura, etc. Enfin, en gros, plus vous vous approchez de la France, moins vous avez de chances que ce soit à peu près sérieusement géré. Et on voit bien que c'est une question, et c'est là-dessus que Tesmar et Landy ont raison, je crois, c'est une question de mentalité collective, c'est une question de responsabilité de ceux qui prétendent diriger les Français. On ne peut pas arroser largement, tout le temps, à tous les prétextes, et prétendre qu'on a ensuite notre souveraineté. Parce que notre souveraineté, une dette très élevée dont on n'est pas sûr qu'on pourra la rembourser, C'est pas bon pour la souveraineté, c'est pas bon pour la crédibilité de la parole de la France. Regardez à quel point nous sommes affaiblis à Bruxelles
et sur la scène internationale. C'est pas vrai sur les marchés, hein. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui sur les marchés. Les marchés n'ont absolument pas du tout réagi à ces nouvelles.
Pas du tout, c'est faux, mais marginalement. Le spread, c'est un peu agrandi, mais très peu.
Non, alors c'est ce qui est presque étonnant d'ailleurs.
Oui, je suis d'accord.
On emprunte aujourd'hui comme l'Autriche et la Finlande.
Jean-Marc, deux remarques par rapport à ça. En France, quand on a un problème, on se tourne vers le gouvernement, on va tendre la main. Ça, c'est devenu une habitude. Et puis, on a peut-être un petit peu trop cru en France que l'argent magique existait.
Oui, ça a été, c'était le discours du quoi qu'il en coûte et tout ça, mais on est en train de remettre en cause le quoi qu'il en coûte et tout ça, mais comme le disait Philippe, ça a commencé bien avant.
Mais oui.
C'est-à-dire que je rappelle quand même le discours de la cagnotte de Chirac et et cette époque-là, donc il fait son discours devant les journalistes à l'occasion d'un 14 juillet et après on lui pose des questions et il dit mais il faut avoir conscience quand on est en situation de crise, il est normal de soutenir l'activité économique par la dépense publique et quand ça va bien, il est normal de rendre aux Français le fruit de leur travail en baissant les impôts. Moyennant quoi, il est normal effectivement de ruiner les finances publiques de façon automatique. Il y a toujours une raison pour ça. Et alors, par rapport à tout ce qui a été dit, j'insisterai à mon avis sur trois éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a quand même dans les règles européennes l'idée qu'il y a des déficits conjoncturels, contracycliques, qui sont tout à fait normaux, et des déficits structurels. Or, en termes de déficit structurel, nous avons normalement un engagement de le réduire de 0,5 points de PIB, et tous les programmes de stabilité que nous transmettons à Bruxelles ne prévoient jamais une réduction de 0,5 point de PIB du déficit structurel. Qu'on accepte un déficit conjoncturel, je crois que Bruxelles est capable de comprendre le fait que les recettes fiscales ne sont pas au rendez-vous si la croissance n'est pas là, mais maintenir certaines dépenses, et je rejoins ce que disait Philippe, c'est-à-dire que il faut faire un arbitrage entre cette idée qu'une dépense publique marginale s'oppose à une dépense privée marginale. Si vous faites cette dépense publique, vous la ponctionnez sur une dépense privée, soit directement sous forme d'impôt, soit indirectement sous forme d'emprunt, et donc le véritable enjeu, c'est de voir est-ce que cette dépense publique rapporte plus que ce qu'aurait fait quelqu'un qui aurait gardé cet argent. La deuxième remarque que je ferai, c'est quand même que parmi les choses que l'on ne voit pas toujours, c'est que depuis 1981, l'État a versé 2500 milliards d'euros d'intérêts.
C'est fou.
Sur les 3000 milliards de dettes, en fait, il y en a 2500 qui ont servi à financer des intérêts. C'est-à-dire que, c'est ce que dénonçaient les économistes du 19e siècle, la dette, c'est ce que j'appelle le mécanisme anti-redistributif, hein, Robin Hood reversed. C'est-à-dire, on prend l'argent de tout le monde, y compris des plus pauvres, pour verser des intérêts à des gens qui appartiennent normalement à la partie la plus aisée de la population.
Et qui sont souvent étrangers.
Et qui en plus sont...
C'est une fuite de capitaux.
Donc, 2500 milliards. Donc, il y a un véritable problème qu'on ne voit pas, qu'on ne met jamais en avant, qui est le problème que, progressivement, par la dette, on appauvrit la population française, et notamment la population la plus pauvre. Et la troisième remarque que je ferai, c'est que je pense que si on doit augmenter les impôts, il faut utiliser les impôts pour lutter contre les problèmes environnementaux qui sont à l'ordre du jour. C'est-à-dire que, concrètement, on est en train encore de nous raconter que l'essence va dépasser 2 euros,
et comme ça, vous êtes pour.
C'est insupportable. Il faut laisser l'essence dépasser 2 euros. La taxe carbone doit être mise à l'ordre du jour. Et dans les programmes de finances publiques, on devrait, indépendamment des enjeux de déficit, centrer notre action fiscale sur une taxe carbone.
On va pas avoir le temps de parler du logement social, malheureusement. Mais Mathieu, je vais donner la parole à Mathieu. Malheureusement,
non, je pense que ça fait partie de la... Je voulais parler de...
Ça fait partie de...
2500 milliards.
Ça fait partie de l'ADN de cette émission d'annoncer des sujets. On va poursuivre un peu sur ce sujet avec votre carte blanche, Mathieu. Le retour des multiplicateurs budgétaires dans le débat. Là, on est en plein dedans.
Oui. Bah, là, on est dedans. Hein. Je voulais dire, c'est qu'effectivement, cette question, elle est fondamentale. Hein, des politiques budgétaires, de la soutenabilité des finances publiques, de certaines dérives, certainement des déficits, du niveau de la dépense. Ce qu'on voit aussi, c'est que, en réalité, dans la dépense publique, la singularité française, c'est la sphère de la dépense de protection sociale, qui est quand même très forte. C'est-à-dire que, notamment, la question des retraites et de la santé, c'est pratiquement la moitié de la dépense publique. C'est ce qui explique aussi une partie importante de l'écart avec nos voisins, et notamment le fait qu'elle soit essentiellement mutualisée. C'est quand même un point central.
On a quand même beaucoup de voisins qui fonctionnent comme nous.
Non, depuis longtemps.
Donc c'est constant. Le biais est constant dans le temps.
La différence.
Mais en Allemagne ou aux Pays-Bas ou en Suisse, les gens marchent pas nu-pieds dans la rue, ils sont soignés.
Mais ça veut pas dire ça. C'est pas dit ça. C'est effectivement, vous introduisez une partie de capitalisation ou des fonds de pension. Je dis pas ça. Je dis juste que la sphère de la dépense publique est pas la même. Y compris sur la santé. Aux États-Unis, vous êtes couvert plus par une assurance privée.
Mais ça, c'était vrai il y a 20 ans comme aujourd'hui. Donc la dérive peut pas être expliquée.
Oui, mais par exemple, aux États-Unis aujourd'hui ont 8% de déficit public. Avec une croissance qui est nettement supérieure à ce qu'on connaît à l'Europe, Et puis, un taux de chômage qui est à 4%. Là, il y a quand même une histoire à raconter, je veux dire, là-dessus.
C'est particulier.
Oui, c'est particulier. Nous, la France, on est effectivement à 5,5, on en fait un psychodrame. Oui, on en fait un psychodrame par rapport à nos partenaires européens, parce qu'on ne sait pas comment on va revenir à 3% et qu'on va nous dire, bah voilà, du jour au lendemain, il va falloir faire des tours de vis, d'économie budgétaire, mais on ne sait pas comment, on dit 10 milliards d'un coup, 10 milliards de l'autre. Bon, personne ne sait comment on va faire, en fait.
C'est surtout, on n'est pas vraiment habitué à ce genre de
choses. Alors si, sous Hollande, il y a eu quand même toute une politique d'ajustement, notamment qui était plutôt fiscale.
Il y a eu aussi la rigueur.
Qui a été fiscale, qui a été la rigueur, en fait, sur les questions structurelles, en fait, entre 2011 et 2015, il y en a justement assez structurel, assez fort. D'ailleurs, on le voit dans la zone euro. Il y a un moment où on rebascule en récession, on parle du fameux double dip. Bon. Mais au-delà de ça, la question des multiplicateurs budgétaires, on la redécouvre, en fait. On la redécouvre parce que pendant 4 ans, la question budgétaire n'était pas du tout sur la table. Effectivement, le quoi qu'il en coûte a été très généreux. Là, désormais, il faut réduire les déficits publics un peu en urgence. Et donc, on dit on va faire des économies. Bon, les économies ne sont pas très détaillées. Pour le moment, on a 10, plus 10, puis après 20. Et puis, la question, c'est quel impact, en fait, sur la croissance, cette affaire-là ? Parce que c'est important.
Ça n'a pas d'importance.
Si, alors,
non, ça n'a aucune importance.
Mais c'est important parce que, par exemple, quand le gouvernement dit je révise ma croissance de. Enfin, le gouvernement du PLF de 1,4 à 1, c'était avant les nouvelles annonces d'économies de dépenses publiques. C'est comme si, en fait, on faisait des économies. Moi, je ne suis pas contre faire des économies, mais il faut dire par où ça passe, quoi. Par où ça passe et quels sont les effets. Je veux dire, il n'y a aucun macroéconomiste sérieux aujourd'hui qui pourrait dire ça n'aura, si vous faites 50, 60, 70 milliards d'économies,
évidemment,
ça n'aura pas d'effet sur la croissance. Il faut savoir.
Je vous ai dit que ça n'aurait pas, je vous ai dit que ça n'avait pas d'importance.
Ça a été quand même l'erreur majeure, notamment de 2012-2013, hein, et le FMI et la Commission européenne, notamment le FMI. Olivier Blanchard a même écrit une tribune pour dire qu'il s'était trompé.
Lui, il était à 0,2.
Oui, il avait sous-estimé l'impact de ça. Je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts.
L'impact d'une rigueur qui était européenne, mais qui n'était pas française.
Non, alors,
La France n'a jamais fait d'efforts de rigueur. C'est l'Europe qui a certainement été trop rigoureuse.
Après, on pourra en discuter, mais il y a 70 milliards de hausse des prélèvements. Enfin,
de hausse des prélèvements.
Oui, c'est aussi, ça existe aussi.
D'accord.
Non, mais je veux dire, si vous prenez le canal de la fiscalité ou d'économie des dépenses, il y a un effet de multiplicateur. La question, elle est centrale de savoir quel va être ce multiplicateur sur la croissance. Et moi, ce que je dirais, c'est qu'à la limite, il faudrait faire un programme d'ajustement budgétaire qui soit construit sur plusieurs années, mais qu'on ne regarde pas, je veux dire, qu'on ne court pas vers un chiffre de 3%. Ça n'aura aucun sens. Sinon, on va aller vers un espèce de truc où on va avoir des surenchères, un tour de vis budgétaire récurrent, une spirale qui n'a pas de sens. Je pense qu'il faut avoir plutôt des mesures structurelles de moyen long terme que d'essayer de courir un chiffre où on va sortir des annonces comme ça qui ne sont pas très construites.
On va être très clair. L'objectif du gouvernement, c'est 1% de croissance pour cette année. Vous, à l'OFCE, vous dites 0,5% avec justement ce principe de multiplicateur.
Oui, alors 0,5 dont 0,2 qui sont liés aux 10 milliards. Mais on n'a pas les nouveaux 10 milliards parce qu'on ne les connaît pas, en fait. Les nouveaux 10 milliards qui ont été annoncés, on ne sait pas si ça comprend une partie des 10 milliards d'avant. Vous voyez, c'est pas très sérieux, en fait. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez être aussi crédible, il faut construire votre stratégie budgétaire sur le moyen terme, sans courir vers des objectifs numéraires de 3%, dire, en fait, j'ai 1% de prévision de croissance, mais ce 1% ne bouge pas, quelle que soit votre politique budgétaire. Bon, quand vous utilisez des modèles, faites de la prévision, c'est difficile de dire, tout ça est dans un coin, et est complètement exogène à la croissance. Sinon, on n'est plus du tout dans les mêmes logiques.
Moi, je ne dis pas un instant que ça n'a pas d'impact. Évidemment, la dépense publique a un impact sur bien sûr. Bon,
faut pas oublier
que la dépense publique, c'est financé soit par la dette, soit par l'impôt, et que donc c'est des dépenses privées qui n'ont pas lieu. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas la moindre importance qu'on fasse 0, 0,5 ou 1 cette année par rapport à notre problématique. Notre problématique, c'est une problématique structurelle et de long terme.
Il y a des tas de pays qui se sont trouvés avant nous, parce que les Français croient toujours qu'ils vivent une aventure unique. C'est le romantisme français. Non. Le Danemark, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, plein de pays ont connu comme nous cette espèce d'impasse avec une difficulté budgétaire qui semblait insoluble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Gouvernement de gauche, Schröder, personne en Suède, Douglas en Nouvelle-Zélande, ou de droite. C'est pas un truc de gauche ou de droite. Tous, ils ont sacrifié la croissance sur 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans. Dans le fond, rétrospectivement, ça n'a pas la moindre importance pour obtenir un rétablissement structurel, pour obtenir de réunir les conditions qui leur permettaient d'avoir, à l'arrivée, à la sortie, une meilleure productivité, précisément, moins de dettes, moins de dépendance vis-à-vis des étrangers. Vous allez rire.
Vous êtes un petit pays ouvert, c'est pas pareil.
Ça a marché partout. Non, mais parce que la Nouvelle-Zélande s'est fermée, le Canada s'est fermé.
Non, mais c'est un petit pays, ils sont quand même beaucoup plus dépendants du commerce extérieur que la France. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est la coordination.
Mais il y a jamais d'exemple qui marche.
Non, mais c'est difficile de comparer la France à la Nouvelle-Zélande. C'est pas du tout les mêmes économies.
Ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts.
D'autres l'ont fait. En sacrifiant la croissance à court terme
là-dessus, on court derrière ce truc-là
et avec des résultats très probants.
Il nous reste un peu moins de 10 minutes et deux cartes blanches. On va parler du CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne avec vous, Philippe.
Oh, bah rapidement.
Oui, le Premier ministre Gabriel Attal est au Canada. L'idée, c'est de remettre ce CETA sur les rails.
Oui, je ne sais pas s'ils vont y arriver politiquement, parce qu'on est dans une situation, vous le savez, assez lunaire, où une proposition de loi communiste au Sénat obtient le vote des LR, qui ne disent qu'on vienne pas que le CETA soit un bon accord, mais qui disent qu'il faut en faire un exemple, parce qu'il ne faut plus d'accord. Donc, allez comprendre. C'est assez navrant, hein, quand même, parce que moi, j'ai connu ce parti qui a changé de nom 17 fois au fil des 15 dernières années, donc je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, mais plutôt favorable au libre-échange. Là maintenant, et ils votent avec les communistes contre un accord qui, en plus, et c'est le point que je voulais souligner, c'est un accord entre Français et Canadiens qui ne sont pas, pour autant qu'on puisse en juger, des gens radicalement différents dans leur niveau de développement, leurs aspirations au règlement du problème climatique. C'est un accord, alors ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, qui, à titre transitoire, fonctionne depuis 7 ans à la satisfaction des deux parties. Tout le monde en tire bénéfice et tout le monde le constate.
Mais les éleveurs ne sont pas d'accord.
Les éleveurs, il y a 2,5 éleveurs qui y perdent. Vous avez plein de gens qui vendent plus de fromage. Il y a toujours des gens qui perdent dans un accord de libre-échange. Mais ça, il faut constater que vous avez beaucoup plus de gens qui y gagnent.
Est-ce que c'est pas un biais français?
Et pas seulement des consommateurs.
On veut bien des accords à condition qu'on soit gagnant à tous les coups.
Oui, mais enfin, bon, ça n'a strictement aucun sens. Enfin, comment dire? Par définition, quand on passe un accord, c'est qu'on espère être gagnant des deux côtés. Sinon, il y en a un des deux qui signerait pas. Et vous allez rire, rétrospectivement, c'est presque toujours ce qu'on constate, parce que les agents sont pas débiles. Donc maintenant, évidemment, vous avez toujours des gens qui vont dire, je vais y perdre ou je risque d'y perdre. Mais ce qui est frappant avec le CETA, c'est que beaucoup de gens dont on craignait qu'ils y perdent, n'y perdent pas. Et on sont même heureux. Donc si vous voulez, si on n'est pas foutu de signer le CETA, je sais pas ce qu'on va signer à l'avenir. C'est un accord entre pays, encore une fois, qui sont en plus une forme de proximité. Alors le Canada n'est pas le Québec seulement, mais qui a une proximité linguistique, culturelle. Enfin, si on signe pas un accord de libre-échange avec des gens comme ça, faut renoncer au libre-échange. Donc, pardonnez-moi, à la croissance et à la prospérité.
Jean-Marc ?
Oui, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Alors moi, ma carte blanche, c'est, je voulais
parler de statistiques.
Parler de statistiques. Je rappelle donc que statistiques, c'est un mot qui vient de l'allemand. C'est les chiffres de l'État.
Stat.
Et donc autrefois, on disait arithmétique politique, qui veut dire aussi les chiffres de l'État, mais sur des bases, des références étymologiques d'origine grecque. Et c'est Parmentier qui, ayant été fait prisonnier pendant la guerre de 7 ans, a dit qu'il y a deux choses qui marchent en Prusse, les chiffres de l'État, la statistique, et la nourriture autour de la pomme de terre. Et donc, depuis, on est rentré dans la statistique.
Il n'a pas dit la gastronomie, hein, il a dit la nourriture.
La nourriture, oui, absolument. Il a été assez réservé sur ce sujet. Et donc, concernant la statistique, on est en train de célébrer les 30 ans des principes généraux de la statistique émis par l'ONU. L'ONU a commencé dès sa naissance à mettre sur la table un projet de définition de ce que devait être la statistique au niveau international. Il a fallu attendre 1994 pour obtenir un accord. Et en particulier, il y avait dans ces principes généraux qui ont été acceptés il y a 30 ans, et il y avait le fait que tout service statistique doit donner ses sources. Et que c'est ça l'essentiel de la crédibilité de la statistique. Ça doit être un outil mathématique fondé sur des raisonnements mathématiques, mais à partir de sources. Et donc là, en ce moment, l'ONU a organisé un certain nombre de colloques autour de ça. Et ce que constate l'ONU, c'est que ça reste toujours le problème essentiel. C'est-à-dire, les gens continuent à afficher des chiffres, à avancer des chiffres, à faire des modèles, mais rarement on a l'état et des sources d'où viennent l'information. Je ne vais pas prendre des exemples dans l'actualité récente sur la situation de l'économie russe, sur la situation de l'économie chinoise, sur... Et donc, ma carte blanche, c'est de dire à mes jeunes collègues de l'INSEE, vous êtes parmi les meilleurs parce que vous avez le courage de donner vos sources. Et donc ça, c'est une bonne chose.
Allez, il nous reste 5 minutes, je vous donne quelques réactions, ça va peut-être alimenter le débat. Jean-Paul nous écrit et dit, une piste de recherche, et si la chute de la productivité était liée à un effet, l'affaire? Ou l'a fait, je ne sais pas comment on prononce.
L'affaire.
Je ne vois pas trop.
Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas le lien.
L'affaire, oui.
Qu'il y a un effet l'affaire en France, je pense que c'est assez probable.
Oui.
Mais que ça soit lié à la productivité, je ne sais pas.
Autre réaction, mais plus épidermique celle-ci. Il faut mettre fin aux avantages et aux privilèges des politiciens à vie. Une autre remarque qui rejoint ce qu'on a dit. Sans la dette, notre PIB serait faible. La dette rapporte depuis 81 plus de 2500 milliards.
Oui, c'est les intérêts qui ont été versés. Oui, sauf que ça rapporte à les gens qui les ont reçus, mais ça coûte à ceux qui les ont versés.
C'est Eric qui nous écrit, qui dit « Sans la dette, notre PIB serait faible ». C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on s'endette pour alimenter notre croissance ?
Ah, ça c'est en partie vrai, mais enfin, les 2500 milliards, il y a des gens qui les ont payés. Sur les politiciens, je rappelle quand même que au moment où on consent la démocratie au Royaume-Uni, la définition dans la charte qui est à l'origine de la démocratie et des politiques budgétaires, c'est de dire qu'on va élire des représentants des contribuables. Or, nos hommes politiques, maintenant, ils se comportent davantage en pourvoyeurs de dépenses qu'en représentants des contribuables. C'est-à-dire, ils ne se considèrent pas comme ambition de défendre les contribuables et de faire en sorte qu'ils paient le moins d'impôts possible.
Ouais. Non, juste par ailleurs, enfin, la protection à vie des politiciens, enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires en politique qui bénéficient, à raison de leur statut de haut fonctionnaire, d'une certaine protection. Mais statistiquement, précisément, c'est de moins en moins le cas au fil du temps. En particulier, cette assemblée, enfin, l'assemblée de 2017, il y avait, je veux dire, bien plus de. Vous savez, en 80, il y avait des profs, avant il y avait des médecins, ensuite il y a eu des profs, il y a beaucoup d'énarques, et puis maintenant on a beaucoup de consultants. Enfin, c'est pas des gens qui sont très protégés. Et je pense que, enfin, moi franchement, je suis très dur avec le niveau intellectuel et moral de la moyenne des hommes politiques français. Je suis intarissable sur le sujet et dévasté. Mais en même temps, on doit le respect à ceux qui sont précisément dans cet univers dévasté, intellectuellement ou moralement exigeants avec eux-mêmes. Et surtout, il faut constater que ce sont des jobs qui sont épouvantablement aliénants et extrêmement mal rémunérés. Parce que le même François Hollande qui a trouvé opportun d'augmenter les impôts sur les Français a diminué la rémunération des hommes politiques. Donc si vous voulez, aujourd'hui, quelqu'un de brillant à qui on propose... Ce que je veux dire est inaudible par un smicard d'un bassin de Modon Industrie qui est en situation de menace sur son emploi. Mais c'est la vérité du marché de l'emploi. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une valeur de marché ne va pas rentrer en politique, sauf s'il pense qu'il ne peut pas gagner plus de 4 ou 5 000 euros en faisant un job dans le privé, parce que c'est à peu près ce qu'il gagnera dans le job politique. Donc ça plafonne, parce que vous avez plein de gens, ils vont préférer faire autre chose, parce qu'ils peuvent gagner 2 fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois ça.
Et, c'est aussi
et puis
pour
sinon,
ça que
l'autre motivation, c'est le salaire non pécuniaire, c'est que vous avez des gens qui vont venir dans la politique parce qu'ils vont être contents d'avoir leur binette à la télé. C'est pas forcément une motivation dont on a besoin non plus. Donc c'est important d'avoir des hommes politiques dont on respecte l'engagement. Franchement, se faire les maisons de retraite le week-end, saluer tout le monde tout le temps, se faire les marchés, personnellement, moi, je suis pas preneur. Hein. C'est mal payé, vous devez exposer votre patrimoine. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique le niveau du débat public, mais le statut des gens qui sont en situation n'est pas à ce point protecteur ou délicieux qu'on puisse honnêtement le dénoncer en toute tranquillité d'esprit.
Mathieu Plane ?
Oui, non, je pense que le point crucial, mais il n'est pas nouveau, c'est l'exemplarité, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on va demander des efforts aux Français, il faut être exemplaire, voilà, c'est tout.
Ça, c'est incontestable.
Mais ça, c'est incontestable. Et donc, c'est vrai qu'il faut montrer l'exemple. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous voulez être crédible, c'est comme ça que ça doit se passer.
Après, montrer l'exemple, ça ne veut pas dire avoir une basse rémunération.
Mais par contre, la basse rémunération n'a pas beaucoup de sens, dans le sens où c'est des gens quand même qui sont qualifiés, qui ont beaucoup de travail, qui effectivement, il faut aussi, d'ailleurs, on le voit, dans certains, on parlait de la fonction publique, certains métiers deviennent moins attractifs parce que vous avez plus intérêt à aller dans le privé si vous voulez bien gagner votre vie, même dans la haute fonction publique, au regard des responsabilités et de l'engagement. Donc, c'est vrai que ce débat, souvent, a tendance à être un peu populiste, parce qu'on pense d'abord qu'il y a beaucoup d'économies et que les politiques abusent tous, alors que c'est pas vraiment et pas du tout le cas. Donc ça, c'est vrai que c'est un point crucial. Je pense que le problème des finances publiques est beaucoup plus profond que ça.
Bien sûr, malheureusement.
Est beaucoup plus profond que ça. Effectivement, il y a un problème de gestion. Moi, pour revenir au quinquennat passé et aujourd'hui, en fait, il y a aussi un moment d'argent magique dans lequel on a fait certainement des mesures qui sont pérennes, dont on n'avait pas les moyens. On a renoncé, par exemple, aussi à des choses dès le début de quinquennat, qui sont la hausse de la taxe carbone, certainement pour des bonnes raisons, mais on ne l'a pas financé par ailleurs. On a réduit certains impôts sans dire comment on allait financer. Si vous cumulez tout ça, voilà, on paye un peu ce moment-là où on pensait que l'argent ne coûterait pas cher pendant longtemps. Or, effectivement, on n'est plus dans cette situation. Et donc là, il y a urgence, et c'est là le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment les solutions.
Merci beaucoup. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, Philippe Manière, président et cofondateur de VAE Solis Communication, et Jean-Marc Daniel, éditorialiste chez BFM Business, économiste, professeur émérite à l'ESCP. Lundi, vous retrouverez Nicolas Dose aux commandes des experts, et dans un instant, Tout pour investir avec Lorraine Goumeau et toute son équipe. Très bon week-end.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.